Bonjour, j'ai une question pour Olivier. C'est Olivier, hein, c'est ça, parce que je vois plus le papier et il me semble que c'était Olivier. Je suis là. En fait, j'ai une double question. Enfin, j'ai une question et une remarque. Première question, pourquoi tu as choisi d'utiliser le terme de prosodie plutôt qu'un autre terme? Parce qu'il y a plein de termes qui auraient pu être utilisés à la place, notamment le terme flow. Alors, est-ce que c'est par rapport au sens du mot qui te paraissait plus riche, ou c'est parce que c'est plus universitaire, ou parce que c'est en français? C'est une vraie question ouverte, hein, il n'y a pas de sous-entendu. Et la petite remarque aussi, c'était sur les covers. Je ne pense pas que ce soit par rapport au. Tu disais qu'il n'y a pas de cover dans le rap français, ou dans le rap en général, et que c'est pas parce que c'est compliqué d'imiter un flow. Pour avoir tenté. Enfin, c'est impossible d'imiter un flow et de récupérer la même chose. Pour avoir tenté l'expérience, en effet, c'est pas possible d'imiter un flow, ou c'est possible de le faire, mais c'est pas beau. Et du coup, c'est ce qui rend intéressant, d'après moi, les covers de rap, c'est de recréer un flow. Et à mon avis, si ça se fait pas, c'est une question d'ego. C'est pour la même raison qu'il n'y a pas, en tout cas pas officiellement, d'interprètes uniquement qui sont pas auteurs dans le rap. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter.
Bonjour. J'ai une question aussi pour Olivier. Vous avez parlé, enfin, déjà bravo pour tout ce travail, c'était vraiment
Merci.
Assez impressionnant. Et je voulais savoir en fait si dans votre étude vous aviez pu observer, en fait vous avez beaucoup parlé de ce qui faisait, on pourrait dire, les caractéristiques de la prosodie du rap et du flow du rap, peut-être par rapport à d'autres styles de musique. Et si en fait dans votre analyse vous aviez pu justement faire des différences à l'intérieur de ces différents textes de rappeurs. Dans les manières de placer les syllabes sur les temps, etc., qui pourraient isoler, en fait, qui pourraient donner des caractéristiques des différents flows et qui nous permettraient de comprendre, en fait, les différences entre, je sais pas, le flow d'MC Solar et celui d'Akhenaton ou de Kool Shen. Voilà, merci.
Bonsoir. Bonjour, pardon. Oui, moi, c'est Artus Jones et j'ai une question pour tout le monde, enfin, toutes les personnes sur scène. Comment vous vous sentez et qu'est-ce que ça vous fait d'être ici? Voilà.
Ben, je vais peut-être commencer par répondre à la question de pourquoi avoir choisi le mot prosodie. Alors, c'est pas uniquement prosodie, c'est prosodie musicale, ce qui n'est absolument pas le même terme, parce que la prosodie, ça concernerait que la voix, disons, et là, la prosodie musicale, c'est quelque chose qui, en musicologie, est analysé de manière très courante dans le lead, dans la mélodie française, dans l'opéra, c'est-à-dire le placement eh bien, du chant, généralement, et pas du tout... d'autres manières de procéder avec la voix dans la musique, voilà. Et donc l'idée d'utiliser le terme prosodie musicale, bah oui, c'est une déformation de musicologue, quoi. Mais et surtout, j'aurais pas voulu utiliser le flow parce que je trouve que le rythme n'est pas le seul élément à constituer le flow. Donc si je parle de flow, il faut que j'analyse absolument toutes ces composantes. Ce qui sera fait prochainement, je viens de choper 120 a cappella de rap français, de toute époque et de tout artiste. Donc du coup, j'espère réaliser ça très prochainement dans le cadre d'un postdoc. Voilà. Mais voilà, c'est l'ouverture, ça. C'est-à-dire que le but... c'est de généraliser ça. Et bien sûr, je l'ai généralisé, pour répondre à l'autre question, à d'autres styles. Durant ma thèse, j'ai analysé aussi le raga français et le punk français. Donc, mon hypothèse, c'était que cet élément, la prosodie musicale, permet de différencier et de caractériser précisément des styles qui n'utilisent pas le chant nécessairement, ou du moins le moins possible. Du coup, l'intéressant, ce n'était pas l'aspect mélodique, c'est tout le reste. Et tout le reste n'est jamais étudié. Donc, du coup, il fallait créer cette méthode pour cela. Voilà, j'espère avoir répondu à ta première question. Et concernant les covers, oui, moi aussi je fais des covers chez moi, dans ma chambre, j'imite la Funky Family, j'adore ça, même pas que dans ma chambre. Oui, bien sûr, mais je sais même qu'il y a un site sur YouTube, il y a des mecs, des rappeurs qui s'imitent entre eux et qui reprennent des chansons, enfin des morceaux quoi, que d'autres avaient fait, parce que nostalgiquement c'est ceux sur quoi ils ont grandi et sur lesquels ils ont appris à rapper. Je sais plus comment ça s'appelle, mais j'avais trouvé ça hyper intéressant. Mais voilà, ouais, c'est sans doute ça. Et par contre, dans le cadre, je sais pas, d'une marchandisation de ce qu'on a, de ce qui est disponible, je n'ai jamais entendu un cover, la reprise d'un morceau de rap par quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas parce que ça ne serait pas original, et ça n'est pas une question d'ego à mon avis. C'est juste que la performance rappée est immédiate, elle est une organisation du sujet, Et le sujet, eh ben, il est là. C'est celui qui le fait, qui l'écrit, qui le met en voix. C'est mon, après, c'est...
L.I.J. ou Brigitte l'ont fait avec des morceaux d'NTM. Moi, je suis sûr et certain, si moi j'ai pu le faire, j'étais content de ma prestation, de ce que j'avais proposé, et j'étais pas le seul. Je suis sûr et certain qu'il y a 250 rappeurs, voire 2500 rappeurs, qui sont capables de faire une cover en changeant le flow, en gardant les bases, et en ajoutant leur propre flow. C'est possible, techniquement c'est possible, et c'est pas infaisable, et c'est pas très compliqué non plus.
Ah non, bien sûr, mais je précise mon propos, je ne dis pas c'est mal.
Ah non, je sais.
Moi je trouve ça génial, et il y a énormément de reprises de rap. Je dis, les rappeurs entre eux, je sais pas, dans un contexte francophone, je ne connais aucune reprise d'un rappeur français pour d'un titre d'un autre rappeur français. C'est juste ça que je dis.
Je te dis juste que c'est parce que c'est de l'ego. Mais après, t'as le droit de penser
autrement. Toi, tu crois que c'est l'ego. Je suis pas persuadé que ce soit ça. Mais je pense plus que chacun aime être identifié pour sa manière de placer son son. Et du coup, c'est pas forcément de l'ego, c'est juste une originalité artistique. Si toi, en tant qu'artiste, il y a machin qui est capable de t'imiter aussi bien que toi, ben toi, tu sers plus à rien finalement. Donc. Tu comprends ce que je veux dire, c'est quand même une marque d'originalité artistique. Bon, enfin, après, ouais, ça, c'est... Ouais, après, on discutera après, avec sans aucun problème.
Je me permets de réagir, parce qu'avant d'aller à la nouvelle question, excusez-moi. Moi, j'ai monté, il y a 5 ou 6 ans, on a monté un groupe, précisément, de reprises de rap français. Un groupe a cappella qui s'appelait Daronze. On a laissé la place à L.E.J., on a arrêté. Et pour le coup, ce qui était hyper intéressant pour nous, déjà moi ça me questionnait pourquoi il n'y a pas de groupe de reprise de rap français. Et pour moi c'est une question de patrimoine en fait. Le truc c'était, si ce patrimoine n'est pas le nôtre, on n'a pas envie de s'y intéresser, on n'a pas envie de dire qu'on en... Voilà, moi j'avais dépassé ces questions d'ego, c'était pas du tout mon propos. Et l'idée c'est de refaire revivre des morceaux que nous avaient marqués étant petits. Donc on a repris les X-Men, même si j'étais un peu plus grand quand c'est sorti, on a repris NTM, Assassin, IAM, Solar, tout ça, et on s'est vraiment, vraiment régalé à le faire. C'est un projet qui a duré 5-6 ans. Et je vais aller un peu à l'encontre de ce que vous dites, c'est qu'il commence à y avoir des reprises de rap français. J'ai pas les titres en tête, mais il y a quelques groupes qui commencent à reprendre, on a eu un morceau d'Arsenic, un morceau d'NTM, etc., même en rap. Et je pense pas que ce soit une question technique, c'est une question de nature de cet art-là. C'est un art d'interprète, c'est un art d'auteur. Et c'est très rare d'avoir des gens qui rappent des textes qu'ils n'ont pas écrits. Donc, c'est pas dans la culture du rap français de faire des covers. Mais que c'est en train de changer. Parce que finalement, les premiers morceaux sont sortis maintenant il y a un petit paquet d'années. Les plus jeunes écoutent les vieux morceaux, etc. Ils commencent à avoir ce patrimoine qui est constitué. Et donc, je pense que de plus en plus, on va avoir... Et puis même la nouvelle école, là, je pense qu'on va avoir des gens qui vont reprendre des morceaux qui ont été écrits il y a 20 ans, etc. Et que ça va continuer. Mais que c'est pas la première pratique, là où on voit plein de groupes de rock qui font des covers, qui est un truc plus culturel. D'apprendre à jouer des classiques de rock, etc. On n'a pas encore travaillé ça, nous, chez nous, mais je pense que c'est en train de bouger. Et je trouve que ces 5 dernières années, là où il y avait 0 cover il y a 5 ou 6 ans, aujourd'hui, on peut en trouver quelques-unes.
Mais je suis d'accord, c'est en train d'évoluer complètement. Je n'ai pas plus à dire, je suis d'accord avec ce que tu dis, en fait. Donc, je te remercie pour ton intervention. Je voulais juste répondre au monsieur qui a posé sa question sur la différenciation des artistes. Bien sûr, dans la thèse, l'idée... Alors, l'idée, c'était d'abord de structurer, de montrer les styles et de les différencier entre eux. Mais avec cette méthode, il est possible, bien sûr, de différencier chaque rappeur, chaque flow entre eux, et à une époque donnée, dans un morceau particulier. Et oui, j'ai relevé pas mal de choses, oui. Oui. C'est le but. Voilà.
Donc il y avait une question qui était adressée à vous tous. Ah oui. Vu que tu as le micro, je te laisse répondre ou...
Moi, je vais faire simple. C'est au moment où je vous parle là, je disais ça hier à Kondo. C'est comme à l'époque où on traînait ensemble à la Kika et au moment où on vivait nos expériences dans le coup d'état phonique. C'est la même chose que je vis là maintenant. Je parlais avec Kevin, Emmanuel tout à l'heure au repas. Virginie Millot qui chaque fois je fais des petits eye contact et tout, mais j'ai l'impression d'être dans la salle où je vais aller tout à l'heure là, qui est juste derrière le bâtiment avec les breakers. Et donc du coup je peux pas répondre exactement ce que je vis pour l'instant, je suis dans le ressenti et donc les gens que je connais, que je reconnais de visage aussi, et d'autres que j'ai connus aujourd'hui, j'ai l'impression de vivre exactement ce que je vis avec les breakers, ou ce que je vais peut-être vivre encore avec les breakers tout à l'heure, parce que je ne sais pas quel battle se prépare, mais peut-être qu'il y a des gens de l'étranger qui vont venir, d'autres gens qui vont s'intéresser à des particularités, des analyses spécifiques à la danse ou quoi que ce soit et tout. Donc là, en fait, moi, là, pour l'instant, je le vis à 100% et c'est 100% hip-hop pour moi.
Merci. Adrien.
Merci. C'est un vrai honneur d'être là aujourd'hui. C'est pour nous, avec Antoine, une première. C'est la première fois qu'on présente ce projet devant des gens qui font de la recherche dans le hip-hop. On l'a déjà présenté. Moi, j'ai commencé par le présenter à des écoles de design en faisant des conférences et à des colloques sur le design numérique. Après, je l'ai présenté dans un festival hip-hop. Un jour, je suis allé voir mes anciens profs et je leur ai présenté la finalité du projet que j'avais fait en études. Et ils m'ont dit « Ah, bah cool, on a un beatboxer dans les bureaux d'à côté, il viendra pour écouter ». Ce jour-là, j'ai rencontré Andro. Et depuis cette rencontre, on a travaillé ensemble. Donc aujourd'hui, c'est une première et je suis très heureux de pouvoir vous le présenter.
Pour moi, c'est pareil, c'est un honneur. Le beatbox et le hip-hop plus généralement, du coup, de plus en plus, c'est quelque chose qui m'anime en fait. Donc entendre tous ces travaux très poussés, c'est quelque chose qui me passionne et je trouve ça assez fantastique. Et ça me fait aussi très plaisir de pouvoir présenter le beatbox dans un autre contexte que dans un show ou dans un battle et de pouvoir l'amener de façon scientifique grâce à Adrien.
Y a-t-il d'autres questions ?
Je réponds à la question peut-être.
Ah pardon, excuse-moi.
Moi je suis pareil, je suis très content de présenter mes travaux devant des spécialistes de toutes disciplines confondues. La pluridisciplinarité et surtout le côté vraiment international, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un provincial et un québécois. Il y a vraiment des gens de partout qui viennent du monde entier, réellement. Je ne sais pas combien de nationalités sont représentées, mais c'est super. Du coup, je suis vraiment très heureux d'être ici, voilà, et de découvrir absolument tous les travaux fascinants qui se font en ce moment. Ouais. Voilà, merci.
C'est très factuel ce que je vais dire en fait, c'est juste sur la question des reprises en fait, quand tu disais qu'il n'en existait pas dans le rap français. On a eu Black M récemment qui avait repris Doc Gineco dans ma rue. D'ailleurs Doc Gineco je crois qu'il n'avait pas trop apprécié. Et je ne sais pas où ça en est, mais il me semble que ça devait être dans un projet de reprise justement par la nouvelle génération, enfin Nekfeu etc. L'album devait s'appeler Affaires de famille je crois. Mais je ne sais pas où ça en est. C'était censé sortir il y a quelques temps, je n'ai pas suivi. Voilà. Après, sans doute qu'effectivement, il y a des questions d'ego qui jouent. Le fait que aussi, en fait, écrire son texte, c'est... en tout cas, on est censé écrire son texte, donc c'est central dans le rap. Et aussi que ça peut... Enfin, il peut y avoir d'autres choses qui rentrent en compte. Je n'arrive plus à me rappeler de qui il s'agissait, mais aux États-Unis, je crois que c'était Lupe Fiasco qui avait pris un texte de Q-Tip, qui avait oublié les paroles. Enfin, je ne suis plus certain que c'était Lupe Fiasco, mais en tout cas, ça avait fait beaucoup d'histoires, etc. Donc, je pense que ouais, c'est quelque chose qui est un peu... Faire attention avec la reprise, quoi.
Juste sur la question des covers, moi, en tant qu'archiviste, en fait, et pour reprendre rapidement sur ce que Olivier vient de me glisser dans l'oreille, si dans la présentation, je parlais justement des contenus, etc. Les covers, moi, j'en ai plein. Je me souviens justement, pendant mon époque marketing, d'avoir des covers. Là je vous laisse la réflexion. Le souvenir le plus clair que j'ai, c'est un album avec Chicken Boubou. Je me souviens plus du nom du groupe. Et il y avait plusieurs titres qui reprenaient tous les flows des rappeurs français, mais chaque titre était une reprise d'un titre connu d'un rappeur français. Et le plus marquant, c'était celui-là de Kerry James, parce que c'était exactement la voix de Kerry James, sauf que c'était des Chicken Boubou, si vous le connaissez dans le stand-up, c'est un humoriste, un comédien, donc c'était des choses humoristiques qu'il faisait. Mais j'en ai des tas et en fait, justement, il faut les classer, les analyser, les étudier, etc. Voilà.
Je crois qu'il faut noter quelque chose qui s'est passé là tout à l'heure, bon, il n'y a pas seulement eu l'excellente présentation de Beatbox, celle de Sidi, mais je crois que la présentation d'Olivier, c'est un événement. Je pèse mes mots parce que c'est vraiment un tournant dans toute l'étude de la prosodie musicale. Grâce à cette méthode, grâce à ce travail, moi, je suis absolument soufflé, impressionné. Et je crois qu'il y aura un avant et un après, Olivier. Ça, c'est clair.
Merci beaucoup.
Et félicitations. Moi, j'avais commencé avec mes petits moyens d'analyser ça, mais je suis absolument soufflé. Et je ne vais pas m'étendre sur les compliments. Je continuerai quand on sera tous les deux. Mais j'aurai une question à poser à Sidi. Et qui est une question très simple. Alors, je voulais simplement savoir pourquoi ce projet d'encyclopédie, d'archives, n'est pas en deux langues. Ou bien, est-ce qu'il y aura un clic qui permettra de l'avoir en français ? Il me semble que le bilinguisme s'impose dans le rap pour une raison très simple, pas pour une raison chauvine, mais tout simplement parce que le rap francophone, c'est le numéro 2 dans le monde. Avec le rap anglophone. Après le rap anglophone, il y a le rap francophone. Donc il faut donner des outils d'accès aux deux langues, dans les deux langues.
En fait, je retrouve vite fait l'exemple d'interface là. Je prends le Télémeta par exemple. Le Télémeta, il y a 4 langues. Je tenais absolument. Et c'est pour ça que je disais que je suis quand même content de l'expérience que je vis aujourd'hui. Je tenais absolument à traduire cette base de données en Wolof et en Bambara. Et je ne sais pas qui je veux convaincre à essayer de traduire, parce que je ne parle pas excellemment Bambara et Wolof, pour le dire la vérité. Mais aussi, et parce que j'ai une facilité pour les langues, donc je ne suis pas fluent en espagnol, mais je comprends l'espagnol et je le lis et arrive à commencer à faire des traductions. L'anglais, je suis, on va considérer, de bilingue. Donc, l'italien, parce que j'ai eu une expérience professionnelle en Italie, donc qui m'a amené à connaître cette langue et à la pratiquer un petit peu. Et donc, à chaque fois que je pensais à ce projet-là, je le pensais avec toutes ces langues-là dans les têtes. Et jusqu'à aujourd'hui, où à un moment, je disais à Virginie Millot, si je ne m'attendais pas à ce que à repratiquer du Wolof, par exemple, ce qui quand même, n'est pas mon habitude. Donc, du coup, l'interface, je l'ai fait, et c'est très simplement, avec un clic, soit sur Télémeta ou sur l'interface de Hip-Hopédia générale, en fait, avec un clic. Le bouton, il est un petit peu caché là, parce que je voulais plus vous montrer que ça se repositionnait selon la taille des appareils. Mais voilà, il y a le bouton des langues qui est là. Et en fait, c'est le code, il est fait, tout est fait et tout, et avec un système d'API, etc. et tout, pour les langues un peu compliquées, pour l'allemand, etc. et tout. Justement, je suis obligé d'aller chercher une ressource extérieure. Qui eux vont faire le travail de correction grammaticale, etc. et tout. Mais toutes les langues peuvent être présentes sur le projet. Juste, je vais terminer là-dessus. J'ai oublié de dire que, en plus des contenus et de l'archivage, musique, vidéo, etc., etc., j'ai commencé depuis 2 ans à archiver toutes vos thèses et articles qui sont disponibles sur les plateformes publiques. Donc il y a ça aussi et que je voudrais mettre aussi à disposition. Donc en fait, le système Hip-Hopédia. Je suis en train de lobbyiser pour qu'il soit accessible dans les bibliothèques municipales en France. Le système existe déjà, puisqu'on a, par exemple, ici à Paris, on a un système qui nous permet de s'inscrire à une bibliothèque municipale et d'accéder à la bibliothèque de la Philharmonie, par exemple. Et donc, je suis en train de lobbyiser là-dessus pour que, justement, qu'on puisse vous lire et lire ceux qui vont venir après, avec les contenus qui vont avec, par contre, plutôt que d'aller sur YouTube. Voilà.
Une dernière question et ensuite...
Une dernière question, puis après je pense qu'on peut...
Question courte, réponse courte.
Destinée donc à Adrien Contès et votre projet que je trouve super. Et en gros, je me demandais dans quelle mesure donc, cet outil qui est destiné avant tout donc, aux personnes qui veulent apprendre le beatbox pour être mobilisé, même de manière plus large, par exemple par des orthophonistes ou Et je me demandais s'il y avait des projets ou en cours dans ce cadre-là ou pas.
C'est une question très intéressante. En fait, le système qui a été mis en place, c'est un système qui s'appelle morphographique. Donc la graphie a à voir avec la morphologie des organes utilisés pour produire le son. Et un type de système comme ça, il peut être utilisé pour le beatbox parce que ça permet une lecture plus simple, mais aussi pour d'autres choses, pour des personnes qui ont des problèmes à accéder à la langue, que ce soit pour le travail d'orthophoniste. Il y a aussi, je fais aussi partie d'un projet de recherche qui travaille à la retranscription écrite de la langue des signes. Pour des gens qui ont des problèmes de surdité, c'est vrai qu'on fait le son par mimétisme sonore. Le fait d'avoir un langage comme ça qui le met sur le papier ou sur l'écran, ça permet d'accéder à certaines informations. Il y a d'ailleurs des ateliers qui sont faits pour les sourds avec du beatbox pour ressentir les vibrations du son. Et donc c'est des choses en fait qui seront des ouvertures. Aujourd'hui j'ai envie de me concentrer pour finir cet outil, ou en tout cas finir une première version de cet outil, mais c'est ce type de système, c'est pas moi qui l'ai inventé, moi je l'ai mis en forme comme ça pour ce projet, pour l'adapter au beatbox. Mais c'est vrai que j'ai envie de creuser ces questions là et plus généralement, mais là je vais peut-être me confronter aux linguistes. Je trouve qu'il serait intéressant de proposer une version de l'alphabet phonétique international avec un système morphographique. J'en parle autour de moi, j'en suis absolument convaincu. J'ai des retours extrémistes des deux côtés. Oui, absolument, ou non, ne touche pas à notre alphabet phonétique international. Bon, voilà.
Merci beaucoup. Donc, je vous propose de nous arrêter là et de poursuivre éventuellement les discussions autour d'un café. Merci à vous en tout cas.